Merci. Bon, je ne veux pas occuper le micro tout le temps, mais je remercie Rémi Gagnère et l'équipe de l'IPSEM de m'avoir invité pour vous raconter l'histoire de l'association Enfance, Adolescence, Diabète Midi-Pyrénées, qui est une association qui a été créée pour développer et pérenniser des activités d'éducation thérapeutique. Donc, je vais vous parler de ses origines, de son fonctionnement, de sa mission et de ses objectifs. Les origines viennent d'une double problématique. La première problématique était de vouloir continuer des activités d'éducation thérapeutique de groupe qui avaient été développées par l'équipe depuis 1989 et pour laquelle on arrivait à des difficultés de prise en charge financière en poursuivant des actions au plus près de la vie quotidienne des enfants, c'est-à-dire quand on organise des séjours sur le sport, il fallait payer les activités sportives, sur l'alimentation, des repas différents, que ce soit au restaurant ou ailleurs. Et tout ceci a un coût qu'il était difficile de faire assumer tout le temps par l'hôpital. La deuxième problématique est une problématique épidémiologique. Il y a une augmentation considérable de l'incidence du diabète de type 1 chez les enfants et surtout une augmentation chez les enfants de plus en plus jeunes. Ceci a donc pour conséquence une augmentation rapide de la population d'enfants qui est suivie, puisque en 10 ans, la population au niveau du CHU de Toulouse a été multipliée par plus de 2. Ceci a également pour conséquence un suivi pédiatrique de plus en plus long, ce qui veut dire une mise en place nécessaire d'activités adaptées à l'âge. Et comme il s'agit d'enfants de plus en plus jeunes, la nécessité de mettre en place un accompagnement des adultes qui vivent auprès des enfants. Et cet accompagnement-là n'est absolument pas reconnu en termes d'activité et a également un coût. Donc on se retrouve au niveau du nœud financier de l'éducation thérapeutique. Comment avions-nous fonctionné jusque-là? Initialement, donc, on avait commencé en 1989 avec la budgétisation d'un poste de puéricultrice par la DAS, qui était une puéricultrice référente en diabétologie. Par la suite, quand on a voulu mettre en place des activités concrètes, notamment des activités sportives, on a déposé des dossiers activités nouvelles qui avaient été acceptés par l'hôpital de Toulouse, qui avaient été ensuite pérennisés, mais avec un budget non indexé sur le coût de la vie et non indexé sur l'augmentation de la population, donc qui devenait obsolète. Nous avons ensuite répondu à des appels à projets de la CNAM, du GRSP, du FNPUIS. Ceux qui connaissent savent que ce sont des activités très chronophage, que l'on fait toujours au dernier moment, parce qu'on est souvent averti au dernier moment, que ce n'est jamais pérenne, puisqu'il faut les refaire chaque année, avec de l'innovation et de la créativité pour présenter des dossiers chaque fois un petit peu différents. Mais ceci étant, on est quand même bien content quand on peut avoir des subventions. Donc nous sommes arrivés à la réflexion, pourquoi ne pas créer un réseau de diabétologie pédiatrique sur la région Midi-Pyrénées? Donc nous étions contents de nous, on avait écrit un projet, mais nous sommes arrivés à l'URCAM et à l'ARH pour présenter un dossier au moment où il y a eu le rapport sur les réseaux. Et on nous a gentiment remerciés en nous disant, un, vous n'intéressez pas à la médecine libérale, et deux, on ne va pas financer des activités à l'hôpital. Donc après question, démotivation, remotivation, on a convenu qu'on allait créer une association sur le modèle des associations loi 1901, pour lequel nous allions créer notre propre modèle financier en allant chercher de l'argent, peut-être dans les structures privées, puisqu'au niveau public, on ne pouvait pas en avoir. Donc cette association est née en décembre 2006. Alors, quelles sont les particularités de l'association? Premièrement, et j'insiste, cette association s'est inscrite dans la continuité du projet qui était mené par l'équipe de diabétologie de l'hôpital. Donc, il y avait des fondations et on voulait continuer ce projet. La mission était améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents ainsi que de leurs familles en développant l'éducation thérapeutique. Donc nous avons mis en place un projet pour les enfants et les adolescents dans leur globalité, c'est-à-dire tenant compte de leurs capacités, de leurs compétences, mais également de leur milieu de vie familial, scolaire, sportif, ludique, et en menant des actions au plus près de la vie quotidienne de ces enfants. Donc l'association s'est inscrite dans le lien de l'hôpital à la vie de tous les jours pour aider les enfants et les adolescents à vivre et à grandir avec leur diabète. Et c'est ce lien qui a servi de concept pour le dessin du logo. Dès la mise en place de cette association, trois points nous ont paru fondamentaux. Premièrement, il était nécessaire d'avoir une convention avec l'hôpital. Deuxièmement, nous avons voulu avoir également une convention avec l'AJD, l'Association d'aide aux jeunes diabétiques. Et troisième point important, le financement. Alors pourquoi une convention avec l'hôpital de Toulouse? Il nous a paru être primordial de dire il faut que l'hôpital reste partie prenante de cette activité. Il s'agit d'une activité de soins et ça s'inscrit dans un projet de soins de l'enfant. Donc cette convention est nécessaire. Elle se traduit par un hébergement de l'association au niveau de l'hôpital et par une mise à disposition d'une partie du personnel sur l'association et par un accueil des enfants pour certaines activités au sein de l'hôpital. Deuxième point, la convention avec l'AJD, donc l'aide aux jeunes diabétiques. Il s'agit d'une instance nationale qui est reconnue. Nous ne voulions pas travailler dans notre coin du Sud-Ouest et nous voulions être reconnus par une instance nationale. Nous voulions travailler sur des référentiels qui étaient admis par les diabétologues pédiatres en France et nous voulions travailler avec les parents du club des familles de l'AJD qui sont sur la région Midi-Pyrénées. Troisième point, le financement. Donc, peu de financement public. Donc, nous nous sommes tournés vers du financement privé. Et nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer une entreprise agroalimentaire qui a été peut-être séduite par notre projet et qui a répondu tout à fait favorablement à notre demande en nous donnant une subvention sous forme de mécénat d'entreprise, donc sans contrepartie publicitaire, pour 80% de notre budget pendant 3 ans. Donc, nous étions très contents. Comment s'est organisée cette association? Il y a donc une partie de l'équipe qui est salariée de l'association et une partie qui est mise à disposition par l'hôpital. Salariée de l'association, il y a un mi-temps de pédiatre, un mi-temps psychologue, un temps plein de diététicienne, un 80% de délégué administratif, un 50% de chargé de la communication. Deux points clés, j'y reviendrai, qui permettent de pouvoir avancer dans les constructions de projets. Le personnel mis à disposition par l'hôpital, un temps plein de puéricultrice, un 30% de diététicienne et un temps plein de secrétaire. Et une fois que ces équipes ont été mises en place, la question a été comment travailler ensemble pour être pertinent. Donc, effectivement, pour être pertinent, efficace et cohérent, il fallait qu'il y ait de la synergie entre ces deux équipes. Pour avoir synergie, nous avons défini un partage de postes. Donc vous avez vu qu'il y avait un temps plein de puéricultrices mis à disposition sur l'association. Ce temps plein a été partagé sur 2 personnes qui font 3 mois chacune pour qu'il y ait de la continuité entre les soins à l'hôpital et les soins sur la structure d'éducation thérapeutique. Pareil pour les diététiciennes, pareil pour le médecin. Deuxième point pour la synergie, la proximité de lieu. C'est pour ça que nous sommes hébergés à l'hôpital, pour pouvoir travailler plus facilement entre nous. Nous avons formalisé des référentiels sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord. Et ensuite, nous avons défini un partage des rôles. C'est-à-dire, qui fait quoi entre l'hôpital et l'association. Alors, nous avons défini comme rôle de l'hôpital la prise en charge de tout ce qui est hospitalisation, tout ce qui est consultation, éducation thérapeutique individuelle et la mise en place des projets d'accueil individualisés après l'hospitalisation initiale en partenariat avec la médecine scolaire. Quand un enfant est hospitalisé pour un diabète, nous pensons que l'accompagnement doit se faire jusqu'à la sortie de l'hôpital et donc jusqu'à l'aide, si c'est nécessaire, à la mise en place de ce projet d'accueil individualisé. Qu'est-ce qui revient à l'association? Ce sont toutes les activités de groupe. Ce sont les aides à la formulation des projets d'accueil individualisés quand il s'agit de changement d'établissement scolaire, dans le cas de préparation de voyage scolaire, et ensuite le travail sur l'acceptation par les groupes de parole. Alors, le partage des rôles peut-être est un petit peu fictif, il va y avoir des domaines qui vont se regrouper, mais c'était important, d'une part pour le personnel, pour que chacun s'y reconnaisse et de savoir qui fait quoi, et c'était également important au niveau financier. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui arrive à l'hôpital par le biais des GHS et par le biais des MIC, et il y a de l'argent public également au niveau de l'association. Et donc, par rapport au dossier d'appel à projet, il était important que nous ayons, nous, une idée un petit peu claire de qui fait quoi. Notre but étant d'être au plus près de la vie quotidienne des enfants, de proposer des activités pratiques en complémentarité du suivi médical, d'accompagner l'enfant et la famille pour une meilleure intégration et d'essayer de faire que le diabète ne soit pas vécu comme un facteur d'exclusion sociale. Pour cela, nous avons défini 3 objectifs. Éduquer, accompagner et communiquer. développer l'éducation thérapeutique pour tous les enfants et les adolescents de 3 à 18 ans, regrouper par tranche d'âge homogène, avec une pédagogie adaptée aux capacités de l'enfant, et en définissant des compétences, nous nous sommes basés à partir des compétences scolaires de ces enfants. Nous travaillons l'acquisition d'une autonomie progressive et adaptée. Nous nous sommes mis d'accord également au niveau des référentiels de l'équipe sur qu'est-ce qu'on attendait en termes d'autonomie, en proposant des activités à la fois théoriques et pratiques. Alors, premier objectif, éduquer. Nous sommes partis au départ sur le constat de ce qui était fait avant la création de cette association. Nous avons regardé quels étaient les manques, qu'est-ce que c'était qui devait être développé, et nous avons rêvé un petit peu sur ce qui devait être développé. Dans les manques, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un manque par rapport à la prise en charge et par rapport au soutien que l'on pouvait apporter aux parents et aux enfants dans les mois qui suivent l'annonce du diagnostic et l'hospitalisation initiale. Donc c'est pour cela que 4 fois par an, tous les trimestres, il y a une journée qui est organisée pour les parents et pour les enfants, pour toutes les familles donc hospitalisées dans les 3 mois précédents. Nous poursuivons les journées d'éducation, nous avons pu en proposer davantage et donc intéresser davantage d'enfants, que ce soit pour les enfants de 3-4 ans avec leurs parents ou pour les enfants à partir de 5 ans, soit en journée, soit en séjour. Chaque séance est bien entendu préparée à partir du diagnostic éducatif qui est fait en consultation. Donc il va y avoir un lien entre l'hôpital et cette association ou entre les hôpitaux périphériques et l'association en référence avec les objectifs pédagogiques que l'équipe a déterminés. Chaque séance est évaluée en termes de programme et une évaluation individuelle par chaque enfant est faite. Et ces évaluations sont dans le dossier de l'enfant, qui est un dossier individuel et qui est discuté de façon hebdomadaire en réunion, avec réunion hebdomadaire de l'équipe hospitalière et de l'équipe de l'association. Et un courrier est systématiquement envoyé à l'ensemble des médecins traitants qui connaissent l'enfant. Pour les adolescents, nous sommes partis sur un projet qui n'était pas de journée, mais plutôt de séjour, pour favoriser le lien entre les adolescents, favoriser le lien adolescent-équipe soignante, et pour être plus pertinent au niveau de l'accompagnement des soins sur toute une journée, puisqu'on est avec eux de 7h du matin à 21h, pour partager l'ensemble des moments de soins. Deuxième objectif, accompagner. Pour faciliter l'acceptation et l'intégration, il nous a paru important de pouvoir accompagner l'enfant et la famille au niveau social, et donc, je le disais tout à l'heure, pour aider à la mise en place des projets d'accueil individualisés, que ce soit en maternelle, en primaire, au collège, beaucoup moins au lycée, puisque les lycéens sont beaucoup moins demandeurs. Ce même accompagnement est proposé également par rapport au milieu sportif, si c'est nécessaire, avec la formation des éducateurs sportifs. Pour les parents, nous leur proposons des ateliers cuisine pour essayer de faire en sorte que la cuisine ne soit pas vécue comme une contrainte thérapeutique supplémentaire, mais peut-être avoir le plaisir de cuisiner, découvrir des choses différentes au niveau de la cuisine. Et ces ateliers cuisine sont toujours associés à des ateliers théoriques. Et ensuite, nous proposons l'accompagnement par les groupes de parole. Troisième objectif, communiquer. Il nous a paru important, toujours dans le souci de cette intégration et cet accompagnement, de faire mieux connaître le diabète et peut-être faire en sorte qu'il y ait peut-être un petit peu moins de fausses représentations par rapport au diabète de l'enfant. Pour communiquer avec les familles, nous avons créé un journal qui paraît 3 fois par an et nous sommes en projet de création d'un site internet. Et pour sensibiliser les médias, nous organisons des événements dont je vais vous parler. Et enfin, communiquer avec les centres hospitaliers généraux qui, sur la région Midi-Pyrénées, sont des, entre guillemets, des petits centres, c'est-à-dire qu'ils suivent peu d'enfants. Ils n'ont pas donc la possibilité d'organiser des groupes de façon homogène. Et donc, nous recevons les enfants qui sont suivis pour qu'ils participent aux activités de groupe avec des échanges de dossiers. Donc, communiquer avec des événements pour sensibiliser la population. Donc nous avons organisé l'année dernière, parce que c'était la journée mondiale du diabète consacrée à l'enfant, la Coupe du monde de rugby et que nous étions à Toulouse, un tournoi, place du Capitole, où chaque enfant et adolescent suivi sur la région venait jouer avec un ou plusieurs amis ou les frères et sœurs pour constituer des équipes. Deuxième projet, ça a été un projet pédagogique avec l'inspection de l'académie pour sensibiliser les enseignants par rapport au diabète. Nous avons proposé à toutes les écoles de la Haute-Garonne et quelques écoles de Midi-Pyrénées un projet pédagogique autour de quatre axes. Un, l'histoire du diabète. Deux, la biologie, le pancréas, l'insuline, etc. Trois, l'alimentation. Et quatre, la différence. Et ces projets travaillés en classe avec les enseignants pouvaient aboutir à une production graphique pour laquelle il y a eu des expositions à l'hôpital et des expositions place du Capitole. En conclusion, je voudrais insister quand on parle donc d'innovation et de créativité pour dire que d'abord, cette association n'est pas sortie d'un coup de baguette magique du chapeau de Paquito Patidou, mais d'une volonté d'une équipe et d'une motivation de cette équipe. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, il s'agit d'une opportunité de rencontre, et je pense aussi qu'il est important de saisir ces opportunités quand elles se présentent. Et une opportunité de rencontre d'origine différente, avec des compétences différentes, et une acceptation de partage de ces compétences. On a vu tout à l'heure la difficulté par rapport aux demandes de dossiers, de structuration, etc. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si le rôle des soignants est de remplir tous les dossiers tout le temps et de structurer, etc. Est-ce qu'il ne faut pas se faire aider par des compétences différentes? C'est le choix que nous avons fait de rencontrer des personnes avec des compétences marketing, des compétences de communication et qui finalement nous aident à essayer de formaliser tous nos projets. Alors bien entendu, on peut discuter le lien privé-public. C'est un débat que nous avons eu au sein de l'équipe avant de nous lancer dans cette aventure. Mais au terme de la discussion, toute l'équipe a osé dire oui à ce projet qui était peut-être un peu déstabilisant, mais qui aussi a apporté beaucoup d'élan dans la prise en charge. Nous craignons au départ d'être moins entendus. On n'était déjà pas beaucoup entendus par les instances publiques, mais on craignait d'être encore moins entendus dans la mesure où on avait trouvé un financement. En fait, il n'en est rien, puisqu'en 2008, nous avons eu quand même la surprise d'avoir une très bonne écoute au niveau de la Caisse régionale d'assurance maladie ainsi que de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui nous a alloué un budget conséquent, dans la mesure où on leur a proposé un projet qui était construit et qui reposait déjà sur une association qui fonctionnait. Alors, bien entendu, ce projet est en cours d'évaluation. Peut-être qu'un jour, je vous le présenterai. Je vous remercie.